Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les Neveux de René, une émission consacrée à dialoguer avec les philosophes et les grands textes de la philosophie. Vous êtes avec Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même Nazim Fattès et à la technique Antoine Honora.
Chemin de pensée avec les Neveux de René.
Alors, nous continuons le dialogue qui avait été entamé la séance dernière avec Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe né à Leipzig en 1646 et mort à Hanovre en 1716. Donc nous disions que Leibniz pouvait se placer dans la lignée des philosophes selon la succession des quatre grands cartésiens, que sont donc Descartes, le père René, qui nous empruntons le titre de cette émission, Pascal, Spinoza, et donc lui, le quatrième, Leibniz. Voilà. Ce qu'on pourrait dire, cette école qu'on appelle le rationalisme, donc ratio étant ce mot latin, qu'il faudra interroger et qu'on retrouve dans évidemment le mot raison. Et le texte que nous interrogeons, c'est Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Alors ici, on est à la radio, donc on n'a pas à écrire, mais Anne soulignait très justement, faut-il écrire fondé ES ou fondé EES Est-ce que c'est la nature et la grâce qui sont fondées en raison? Est-ce que ce sont les principes qui sont fondés en raison? Voilà. Alors, nous continuons donc à questionner, cheminer, discuter avec Leibniz. Nous avons vu que ce texte était un condensé de sa pensée et ce condensé de pensée passait par l'expression d'une monade. Cette monade est une unité. Cette unité, elle est garante de l'être, si on peut dire, puisqu'il n'y a d'être que dans la mesure où il y a unité et il n'y a d'être que dans la mesure où il y a raison. Alors tout ça semble bien métaphysique, mais je vais me permettre de dire une petite chose avant qu'on rentre dans le texte. Le mot philosophie est un mot qui prête de nombreux équivoques, et en particulier, on appelle aujourd'hui philosophie toute espèce de réflexion vague sur le monde, sur les sentiments des êtres humains, sur la politique, sur... Or, philosophie, c'est un mot qui prend vraiment de la force et du sens quand on lui accorde un sens, à mon avis, plus restreint. Voilà. Et on voit tout de suite qu'à travers ce texte, si on ouvre les principes de la nature et de la grâce, on est déstabilisé. C'est pas facile d'abord, on va pas dire ça. Mais justement, c'est aussi ça la philosophie, c'est un questionnement fort et profond. Et nous, dans cette émission, et puis dans notre atelier où on se voit régulièrement, nous faisons un pari que finalement ces textes ne sont pas aussi difficiles qu'il en a l'air, qu'il faut entrer en dialogue avec les philosophes, et puis voilà, c'est ce qu'on fait, et normalement les choses s'éclairent avec un travail. Mais voilà, moi j'aurais tendance à appeler ça de la philosophie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses très intéressantes par ailleurs, mais il faut les appeler par leur nom. Ce nom, ça peut être politique, ça peut être psychologie, ça peut être théologie, ça peut être bouddhisme si on veut, on peut l'appeler ça de plein de façons. Anthropologie, mais il ne faut pas appeler ça philosophie. Voilà, c'est simplement, moi j'ai été formaté comme ça et je trouve que c'est très sain de garder philosophie pour un type particulier de questionnement. Voilà. Alors, nous lisons le troisième paragraphe de ce texte. Qui souhaite le lire? Anne.
Tout est plein dans la nature. Il y a des substances simples, séparées effectivement les unes des autres par des actions propres, qui changent continuellement leur rapport. Et chaque substance simple ou monade qui fait le centre d'une substance composée, entre parenthèses, comme par exemple d'un animal, est le principe de son unité, est environné d'une masse composée par une infinité d'autres monades qui constituent le corps propre de cette monade centrale, suivant les affections duquel elle représente, comme dans une manière de centre, les choses qui sont hors d'elle. Et ce corps est organique quand il forme une manière d'automate ou de machine de la nature, qui est machine non seulement dans le tout, mais encore dans les plus petites parties qui se peuvent faire remarquer. Et comme, à cause de la plénitude du monde, tout est lié et chaque corps agit sur chaque autre corps, plus ou moins, selon la distance, en est affecté par la réaction, Il s'ensuit que chaque monade est un miroir vivant ou doué d'actions internes, représentatives de l'univers suivant son point de vue, et aussi réglé que l'univers même, et les perceptions dans la monade naissent les unes des autres par les lois des appétits ou des causes finales du bien et du mal qui consistent dans les perceptions remarquables, réglées ou déréglées, comme les changements des corps et les phénomènes au dehors naissent les unes des autres par les lois des causes efficientes, c'est-à-dire des mouvements. Ainsi, il y a une harmonie parfaite entre les perceptions de la monade et les mouvements des corps préétablis entre le système des causes efficientes et celui des causes finales. Et c'est en cela que consiste l'accord et l'union physique de l'âme et du corps sans que l'un puisse changer les lois de l'autre.
Merci.
Je
merci
dois
Anne.
Dire oui. que j'ai fait une phrase très très longue qui a oui. duré plusieurs lignes.
Oui.
Les gens ne sont peut-être pas aperçus, mais pendant plusieurs dizaines de lignes, quelques dizaines de lignes, il n'y a pas eu de virgule.
C'est un paragraphe assez long. Ouais.
Oui, c'est très long. Oui. Alors, encore une fois, on rappelle, hein, le texte, c'est une espèce de condensé,
oui.
condensé de la pensée de Leibniz. Alors, on a bien conscience que c'est difficile. Mais en même temps, pour une émission de radio où le temps est compté, ça peut être intéressant aussi de prendre difficiles
bien sûr.
Et de voir comment ça peut nous évoquer des choses.
Je peux déjà regarder le début du paragraphe.
Voilà. Alors, on va commencer par le début, soyons cartésiens. Découpons et faisons par ordre, procédons par ordre. Alors, oui, Sylvain.
Alors, oui, donc la notion est intéressante. La première notion, tout est plein dans la nature.
Oui.
En fait, dans ce qu'il explique là, on a l'impression, vous allez me dire si ma pensée est bonne, qu'au final, il a. Vous voyez, on parlait dans l'émission précédente du fait qu'il y a, à cette époque, il y a des problèmes physiques qui sont compliqués, enfin que les gens ont du mal à comprendre, notamment tous des phénomènes à distance.
Oui.
Et le problème des phénomènes à distance, c'est comment on peut imaginer que quelque chose agisse sur une autre chose alors qu'il n'y a pas de contact.
Oui.
Et en fait, là, il est en train de répondre à ça.
Mmh.
Ce que dit Leibniz, c'est que tout est plein dans la nature. Mmh. Donc en réalité, lui, il dit qu'il y a du contact.
Tout à fait.
Il dit que de proche en proche, les choses sont liées les unes aux autres. Tout est lié dans la nature, en fait.
Tout à
c'est
fait.
Pour ça que dans l'émission précédente, on parlait de la Lune et de la Terre.
Mmh.
En fait, il y a quelque chose entre la Lune et la Terre pour Leibniz.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Donc, c'est ce qu'explique ce premier paragraphe, enfin, le début du paragraphe.
Ça, c'est très intéressant. On peut faire peut-être une petite parenthèse physique, de physique. Longtemps, cette substance substantielle, si je puis dire vraiment, elle a été cherchée par les physiciens.
Mmh.
Il ne faut pas oublier. Et les noms, les physiciens lui ont donné le nom d'éther.
Éther, oui,
éther hein, n'est-ce pas oui. Donc, on pensait effectivement qu'il y avait quelque chose, une espèce de substance qui transmettait la gravitation et qu'on appelait éther. Et ensuite, par certains appareils de mesure très précis, on a essayé de comprendre... comment la vitesse de la lumière allait varier selon la différence de mouvement de la Terre, par exemple, autour du Soleil.
Mmh.
Et à notre grande surprise, on a vu qu'il n'y avait pas de variation. D'accord ? C'est-à-dire que si on est dans un train et qu'on lance une balle, la vitesse de la balle, normalement, c'est la vitesse du train plus la vitesse à laquelle on a lancé par rapport à celui qui est sur le...
Qui regarde le train passer.
Voilà, qui regarde le train passer. Or, avec les expériences de Michelson-Morley avec les interféromères, on s'est aperçu que... Ça, c'était pas possible.
Avec la lumière, ça marche
pas. Avec la lumière, ça marche pas.
Mmh.
Et donc, finalement, c'était ça, ce qu'on appelle la relativité. Mmh. C'est le fait qu'on a abandonné cette idée d'éther pour substituer le cadre mathématique classique avec un autre cadre.
Mmh.
Mais, juste pour revenir à Leibniz, c'est très intéressant de voir que ce mode de pensée a subsisté en tant que tel très, très, très longtemps, quoi.
Mmh.
C'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Et même au XXe siècle, je suis persuadé qu'on peut encore, entre guillemets, j'allais dire un mauvais terme, mais on peut encore sauver, mais ce n'est pas de sauver, mais on peut encore tout à fait prendre en compte ce que dit Leibniz. Quoi.
Oui,
c'est
oui,
pas dépassé.
On se rend compte que même encore maintenant, il y a des principes de physique qui ne contredisent pas forcément ça, en fait, d'une certaine façon.
Voilà, exactement.
La gravité, par exemple, on voit qu'il y a le boson de Higgs qui explique la gravité, enfin, en tout cas, qui est une particule qui permettrait de... D'après ce que j'en ai compris, hein, je ne suis pas physicien personnellement,
oui,
mais... Bon, donc, en fait, finalement, il n'y a pas forcément de contradiction forte.
Tout à fait, tout à fait. Anne, tu avais des remarques, des questions ?
Alors, j'avais deux, trois phrases, mais enfin, il y en avait d'autres, hein, mais qui m'avaient peut-être plus, qui avaient plus attiré mon attention. Et on a ce corps qui est organique, donc qui est autour de la monade centrale, apparemment. Ce corps qui est organique et qui forme une manière d'automate ou de machine de la nature. Donc là, on en revient à l'automate. Donc, effectivement, donc on a l'impression que le corps est un petit peu automate, et puis peut-être la monade centrale, peut-être plus âme esprit. Est-ce qu'on a le droit de penser ça? Et est-ce qu'on pense que finalement, il n'y a plus qu'une chose qui le sépare des matérialistes, enfin ceux qui croient, qui ne croient plus qu'en la matière, qui est que justement, lui, il y a encore quelque chose qui anime cette monade. Il y a comme une âme dans la monade, au moins les monades principales.
Bien, je dirais que c'est une question très profonde. Je ne peux m'empêcher, Anne, de penser à nos émissions précédentes et au dialogue que nous avions eu avec Olivier Rey, justement, où, à travers cette question du transhumanisme, finalement, ce qu'a voulu montrer Olivier Rey, c'est que notre époque est très, très imprégnée d'un point de vue mécaniste. Et exactement comme tu l'as souligné, de Descartes à Leibniz, on s'aperçoit qu'il y a dans toute vie quelque chose de l'ordre du mécanique. Mais, de Descartes à Leibniz, personne ne dit « il n'y a que ça ».
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Notre époque le dit. Et ça, c'est un problème de taille. Ça, c'est vraiment
c'est un grand changement.
C'est un grand changement. Nous ne pensons plus qu'un corps vivant, quel qu'il soit, reflète la totalité de l'univers. Donc, nous ne pensons plus à un être comme faisant partie d'un cosmos, mais justement comme des fonctionnalités. Donc, si je suis que des fonctionnalités, bah pourquoi je ne vais pas augmenter toutes mes fonctionnalités, finalement?
Et surtout, pourquoi est-ce que je ne peux pas être remplacé par une machine?
Exactement. Et pourquoi, à la fin, au fond, je ne devrais pas être remplacé par une machine? Donc, il y a, chez Leibniz, des prémices de l'époque dans laquelle on vit. Mais il ne faudrait pas dire que tout est dans Leibniz. C'est peut-être une mauvaise compréhension du Descartes-Leibniz. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on pense, et je dirais même autre chose, quand on pense au dérèglement climatique, au dérèglement tout ça, je me demande très souvent s'il n'y a pas un oubli d'une pensée globale de l'univers. Vous voyez, à cette époque-là, on pense encore l'être humain comme faisant partie d'un cosmos. Nous, on ne pense plus ça. On dit, je vis sur Terre, mais d'accord, la Terre, donc j'émets tant de dioxyde de carbone, donc il faut que je baisse mon taux de dioxyde de carbone. C'est-à-dire, ce n'est pas au nom d'une harmonie avec l'univers qu'on pense ce qui s'appelle l'écologie, mais au nom d'un calcul.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, problème, voilà.
Ah bah la façon dont on voit effectivement l'être humain, et puis le monde en général, a vraiment, vraiment beaucoup changé.
Mais elle a changé comment? C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle a changé par oubli.
En fait,
on a pris cette impulsion du rationalisme tout en oubliant ce qui en faisait le corps. C'est ça qui...
C'est aussi lié, je pense, de manière historique, on en avait d'ailleurs un peu parlé dans les émissions précédentes, le fait que le monde aussi s'est scientificisé, je ne sais pas comment on peut dire le mot, enfin c'est peut-être pas le bon mot, mais que évidemment le développement de la science a favorisé ça, c'est-à-dire que ça a favorisé le fait qu'on a déjà plus de contrôle sur la matière, sur certaines choses, et du coup ça a enlevé tout l'aspect, justement, qui est hors de ça, en fait, hors de l'aspect matériel.
Et d'où l'intérêt d'utiliser ce terme qui est, par exemple, utilisé par Jean-Marc Lévy-Leblond, qu'on avait accueilli ici, hein, qui est de technoscience.
Voilà.
C'est-à-dire, ce n'est plus une science pour la compréhension du monde, mais pour le contrôle de toute chose. Y compris les choses qui n'ont pas l'air d'être pour le contrôle. Je ne sais pas, on pense à l'astronomie, on pense à l'archéologie, n'importe quoi. L'étude de la préhistoire, même ça, c'est aussi réutilisé souvent à des fins de contrôle. Alors, d'autres choses, Anne, par rapport à ce texte,
bien sûr, il y a plein de... Il y a les fameuses causes finales du bien et du mal, qui consistent dans les perceptions remarquables, réglées ou déréglées, et plus loin, on a le mot d'harmonie.
Oui, voilà. Mmh.
Quelles sont ces causes finales? Quelle est cette harmonie? Qu'est-ce qui a été réglé? Est-ce que le monde est pré-réglé pour faire quelque chose d'harmonieux et que ça vient de Dieu?
Oui.
Est-ce qu'on est comme des fois, ce que tu sais, quand on parle de nos neurones, ils disent des câbles un peu pré-réglés, puis après il y a, l'apprentissage qui vient et puis qui vient sur ces câbles pré-réglés.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors on va faire une petite pause musicale et puis on va laisser nos auditeurs méditer sur ces questions.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors nous parlions d'harmonie, voilà un bon exemple d'harmonie. Anne, tu peux nous dire de quel morceau il s'agit?
Alors c'est la danse des âmes bienheureuses, donc évidemment il y avait une petite pique vis-à-vis de Leibniz, donc qui trouve qu'on est dans le meilleur des mondes possibles. Et puis c'est de Gluck, dans Orphée Eurydice.
Merci. Alors, effectivement, on va relire la fin de ce paragraphe 3 dont nous discutions.
Et les perceptions dans la monade naissent les unes des autres par les lois des appétits ou des causes finales du bien et du mal qui consistent dans les perceptions remarquables, réglées ou déréglées. Comme les changements des corps et les phénomènes au dehors naissent les uns des autres par les lois des causes efficientes, c'est-à-dire des mouvements. Ainsi, il y a une harmonie parfaite entre les perceptions de la monade et les mouvements des corps, préétablis d'abord entre le système des causes efficientes et celui des causes finales. Et c'est en cela que consiste l'accord et l'union physique de l'âme et du corps, sans que l'une puisse changer les lois de l'autre.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette harmonie parfaite? Est-ce que, comme le dit Voltaire, Leibniz est un naïf qui croit que le monde est beau? il parle de causes du bien et du mal. Comment interpréter ça? Quel est votre lecture de Leibniz par rapport à cette question-là, voyez-vous un naïf?
Alors non, pas du tout. En fait, en tout cas de ce qu'on peut voir, si on regarde un petit peu, encore une fois, le contexte historique aussi du travail philosophique, du dialogue philosophique à l'époque, Il y a un problème en fait à fondamental à ce moment-là, c'est d'arriver à concilier de manière raisonnable, donc par la raison, des choses qui sont difficilement conciliables, c'est-à-dire la présence du mal dans le monde, hein, qui est malheureusement évidente pour les gens de l'époque, de toute façon. Donc la présence du mal dans le monde et le fait qu'il y ait un Dieu qui soit par hypothèse bon et tout puissant. Donc comment il peut y avoir du mal si Dieu est bon et tout puissant ?
Et si j'ai une maladie, la première chose qui vient, c'est pourquoi je suis malade.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce boulot ?
C'est-à-dire, soit Dieu il ne m'aime pas, voilà. Alors quel cas il est pas bon, soit il y a pas de Dieu, auquel cas il y a pas de raison. Mmh. Ça aurait pu m'arriver comme ça aurait ne pas m'arriver. Mais je peux pas penser les deux à la fois, quoi. C'est ça.
Et Leibniz, lui, bien sûr, il croit en Dieu, donc lui il considère qu'il y a Dieu et qu'en plus il est bon et tout puissant. Et le problème, c'est comment on peut expliquer le mal, comment on peut justifier la présence du mal dans un monde où il y a un Dieu bon et tout-puissant. Et quelque part, il donne une réponse ici.
J'ai toujours du mal quand tu dis « crois en Dieu », parce qu'au fond, j'ai presque envie de te dire « on n'en sait rien ».
Non, mais je parle de Leibniz, là.
Mais oui, mais Leibniz, j'ai envie de dire « on n'en sait rien ».
Ah, peut-être. Alors, je crois qu'il est quand même, il était quand même, comme tu disais, luthérien ou je sais pas.
C'est un peu difficile, ma remarque. C'est-à-dire que son dieu, c'est un peu comme le dieu de Descartes finalement. C'est pas un dieu ressenti de le dieu.
C'est pas le dieu de la révélation.
Non, voilà, c'est pas le dieu de la révélation. Donc c'est, on pourrait, et je crois qu'Auguste Comte l'a fait, je crois que mon ami Tonatius Etchès Andoval, qui a étudié Auguste Comte, me disait ça. À chaque fois qu'il y avait Dieu, il mettait la nature, ou il mettait l'humanité, ou je ne sais pas quoi.
Ah, il y avait Spinoza aussi qui a parlé de Dieu dans la nature.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment de quel Dieu il s'agit.
C'est un concept un peu flou, oui.
Pas flou. Non. C'est que Dieu, c'est quoi ? C'est l'étant suprême, c'est la cause suprême, c'est l'archée suprême.
Oui. Ouais. Ça, d'accord.
Donc, on est d'accord. Donc, finalement, on peut dire. Je crois à une cause suprême, mais c'est pas vraiment le Dieu auquel êtres humains croient généralement. Quoi.
Oui. Enfin, on n'est peut-être pas dans les religions.
Voilà.
Mais on est quand même dans effectivement une entité théorique, enfin en tout cas un élément théorique, qui, effectivement, comme tu dis, de cause suprême.
Oui.
Mais qui a des propriétés particulières, parce que là, il y a quand même une notion
de bonté.
De bonté.
Oui.
Donc le Dieu est censé être bon.
Oui.
Donc le principe premier est bon.
Oui.
Et il est tout puissant, il peut tout.
Mais
et pourtant, il y a le mal.
Mais c'est ça. Et je vais juste te dire une chose. Pense à tous les gens qui disent ne pas croire en Dieu ou ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas comment il faut le dire, parce que j'aime pas ces expressions-là. Mais ils ont quand même en eux un principe du bien. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui critiquent justement l'usage de Dieu, mais qui croient quand même au bien.
Oui, alors après, tu peux avoir une morale sans forcément avoir un dieu qui justifie ta morale.
Mais sur quoi elle se fonde alors, cette morale ?
Bah là, c'est un.
Sur quoi elle s'appuie ?
Sur le ressenti de.
Non, juste, une question qu'on a déjà abordée avec Anne, notamment quand on parlait de Camus.
Bon, il y a des gens qui ont naturellement de l'empathie, sans qu'ils passent par Dieu pour en avoir, parce que c'est vrai qu'il y a Jésus-Christ qui est venu dire aux hommes qu'il fallait s'aimer, parce qu'ils ne s'aimaient pas tellement. Donc, on conçoit bien cet usage de Dieu. Mais il y a des gens qui ont naturellement de l'empathie, ça c'est la première chose, et qu'ils soient ou non croyants.
Oui.
Et d'autre part, pour ceux qui n'ont pas d'empathie, il faudrait peut-être essayer de leur faire comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Et que finalement, c'est plutôt notre intérêt, même sans Dieu, c'est plutôt notre intérêt que tout aille bien et qu'on s'entende bien.
Et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça qu'on dévie un peu, mais c'est pas grave. Dire je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, j'ai presque envie de dire mais on s'en fiche. Au fond, la question c'est de savoir s'il y a une unité entre nous, effectivement, s'il y a une harmonie entre nous. Et il me semble que lire Leibniz et méditer Leibniz peut aider à percevoir cette unité, cette harmonie.
Oui, ça,
voilà,
tout à fait. Hein.
Ouais,
mais là, de toute façon, eux, ils sont dans un discours, enfin, ou un dialogue qui est quand même, effectivement, qui se place pas dans la religion.
C'est ça, exactement.
On est bien d'accord.
On est bien d'accord, c'est ça. Ouais. Donc souvent, les oppositions, on va dire, du vulgaire, elles tiennent pas encore dans ce contexte-là, voilà, c'est ça. Oui, vous voulez finir parce qu'on ne reste plus beaucoup de temps, Sylvain.
C'était pour expliquer effectivement que ce paragraphe est un peu un des éléments. Bien sûr, après, il faut regarder tout le reste, tous les écrits de Leibniz, mais
tout à fait.
Ça montre, c'est la première brique, on va dire, le premier élément qui montre sa réponse à ce problème-là, ce problème de la présence du mal.
Exactement.
Avec, malgré le fait qu'il y ait un Dieu bon et tout puissant.
Et cette question de voir pourquoi il y a le mal, pourquoi je suis touché, ou pourquoi lorsque j'allume la télé, je vois autant de mal, on parlait des réfugiés là, qui sont bloqués sur des bateaux et qui sont dans cette chose-là. Leibniz ne dira jamais « il faut l'accepter et ne rien faire ». Ce n'est pas du tout ça. Non. Mais c'est penser le tout du monde et penser en quoi... Ça nous montre une certaine, peut-être une certaine ignorance, une certaine déficience, une certaine chose que nous devons combler pour que ce mal cède la place à un bien meilleur. Oui, Anne.
Alors j'avais entendu, enfin j'avais lu aussi des textes dans lesquels il disait que quelque part, comme le bien et le mal étaient dans la nature et que c'était à l'homme d'aller vers le bien et que peut-être cette manière d'aller vers le bien et cette possibilité qu'on lui laissait d'aller vers le bien, c'était un petit peu sa liberté.
C'était sa liberté, c'est on peut liberté. Dire ça, on peut dire ça. Bon, il y a une très belle
beaucoup
conclusion.
De discussion sur le libre arbitre aussi.
Voilà, ouais, tout à fait. Merci Anne, merci Sylvain, merci Antoine à la technique. Et puis rendez-vous donc dans la prochaine séance, la prochaine émission de radio, pour continuer sur les chemins de la philosophie.